C'est Chanel, vous écoutez l'émission 10 minutes avec, et cette semaine, je suis allée découvrir Agir pour le vivant, qui se déroulait à Arles entre le 26 et le 31 août. Cinquième édition pour ce festival qui propose de réfléchir ensemble à une multitude de questionnements grâce à des débats, des rencontres, des projections, des expositions, des assemblées populaires. Comment se réapproprier une puissance d'agir citoyenne? Comment écouter ce que les territoires et bassins versants ont à dire pour dessiner des cartes de territoires vivants? Comment réorganiser le travail pour entendre les revendications des travailleuses et travailleurs? Comment décoloniser la pensée et faire éclater le concept de réalité? Finalement, comment lutter ensemble. Retour sur la troisième journée de l'édition 2024 de Agir pour le vivant. Départ matinal. Juste le temps d'attraper un café allongé aux fleurs du Malte avant de courir sur le quai. Dans le train, j'essaie de deviner les passagers que je retrouverai dans le festival. Pas aussi facile que je le croyais. Les rencontres de la photo compliquent un peu la tâche. Finalement, j'abandonne et préfère me poser la question. À Arles ou en Arles? J'opte pour ne surtout pas trouver la réponse. Évidemment, les rendez-vous de la journée ont débuté sans moi. À 7h30, on pouvait s'essayer à des rituels matinaux autour de l'esprit du vent. J'ai choisi, pour me fondre dans la masse de la ville, de jouer l'arlésienne. Seconde évidence, je me suis perdue entre la gare et la chapelle du Méjean, centre névralgique du festival. De fait, lorsque j'arrive enfin à destination, le café avec la philosophe Catherine Malabou a déjà commencé.
C'est hyper intéressant mais très compliqué. D'une part parce que les anarchistes traditionnels refusent ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire mais pas du tout. Il y a d'un côté l'anarchisme révolutionnaire et de l'autre le cyberanarchisme ou l'anarcho-capitalisme, il ne faut pas confondre. Donc il faut que je me batte contre ça. Et il faut arriver à trouver, si on adopte ma position, il faut arriver à trouver la ligne de crête qui va permettre de différencier les deux, ce qui n'est pas si facile que ça, dans la mesure où nous avons tous recours aux mêmes plateformes, aux mêmes réseaux.
On y parle de Proudhon qui lançait que la propriété, c'est le vol. Catherine Malabou explique qu'il n'y a pas eu de révolution, titre de son dernier ouvrage. Dit comme ça, je sais, ça pourrait faire peur. Surtout à 9h30 du matin. Mais en fait, la discussion est amicale, intime même. On se questionne et l'on ose dire qu'on se questionne.
La question, c'est le pouvoir. À partir du moment où, bon, moi je suis prof, à partir du moment où on a la parole, on a le pouvoir. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Dès qu'on est ensemble, il y a de l'énergie qui se dégage, c'est ça le pouvoir. L'énergie, et quand on est enseignant, par exemple, dans le groupe d'élèves, il y a une sorte de force qui se dégage, d'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait?
10h. Il est temps d'aller s'asseoir dans la librairie d'Actes Sud pour passer 90 minutes en compagnie de l'autrice Juliette Rousseau autour de son dernier livre, Pecnode.
Là où j'ai grandi, elle a notamment consisté à remembrer, à raser, aménager, autant de façons de secouer la terre pour en faire tomber celles et ceux qui l'habitaient, comme des poux. La modernisation, l'urbanisation sont les noms de la culturation progressive et violente des populations paysannes, laquelle trouve son acmé il y a environ 50 ans avec le remembrement et l'imposition d'une agriculture productiviste et industrielle. Je suis née et j'ai grandi dans l'un des territoires où ce processus s'est fait le plus violemment, le plus rapidement. Naître au champ, après la bataille, dans une ruine des mots et du sens de soi.
Je crois pouvoir dire que personne ne s'attendait à ça. Je me dois de citer la présence de Nelly Ponce dans le rôle de modératrice, tant sa voix et ses émotions ont participé à ce moment.
Il s'agit d'abord de, et là je te cite, j'ai mis page 34, mais en fait c'est difficile de trouver une autre page dans le livre. C'est d'abord de revenir habiter son territoire comme on ferme la porte sur soi. Et cette histoire, c'est le lien entre un corps et un pays dépiauté, saccagé, remembré, on en parlera, un territoire champ de bataille, selon tes mots, qui semble avoir perdu la bataille. C'est aussi notre histoire collective, celle d'une ruralité dénigrée, ringardisée, alors même que nous en usons et abusons tous chaque jour, ne serait-ce que pour nous nourrir. Tu vas aller dans mes yeux, ça me fait quelque chose. C'est une histoire de mots, enfin, de poésie. La poésie comme un refuge, un scalpel aussi. Une manière de porter un regard incisif sur le monde d'où tu viens, d'où je viens. Et d'où quelque part, nous venons tous. Page 9, tu écris, je n'ai pas trouvé mieux que les mots pour ouvrir une brèche. On va tenter de s'y engouffrer ensemble dans la brèche.
Écrire la ruralité au travers du récit de soi. La réciproque étant sûrement plus juste. La poésie, issue des extraits lus, tout autant que les échanges, ont entraîné les larmes et les rires. Les sanglots dans les voix n'étaient pas retenus, ni du côté du public, ni du côté des intervenantes. L'intime a, finalement, créé un récit collectif autour du saccage par la modernisation de l'agriculture de ces campagnes, du remembrement des années 70 qui a finalement démembré et conduit à la destruction de ces lieux de vie.
Comment dire ? Quand tout ton territoire vit d'une économie dont par ailleurs dépend tout le pays, et même plus largement, enfin, je sais plus combien c'est, je crois que c'est quasiment 20% de la population française qui est nourrie par l'agro-industrie bretonne, c'est énorme par rapport à... Enfin voilà, c'est, l'agro-industrie bretonne, c'est, ça fournit énormément de la bouffe qu'on consomme. Donc en fait, on est tous et toutes dépendants aujourd'hui dans le capitalisme de cette forme économique. Et en fait, les agriculteurs le savent très bien, et par ailleurs, ils sont quand même très convaincus que leur mission, c'est justement ça, c'est le fameux nourrir le monde. Et tant que on viendra, entre guillemets, j'ai l'impression, et moi la première, donner des leçons en vivant une vie qui dépend en fait de leur sacrifice, c'est irrecevable et à juste titre.
À 14h avait lieu une table ronde nommée « Contre la privatisation ». Pour aborder le sujet, Agir pour le vivant avait invité la chercheure en économie au CNRS, Anne-Laure Delatte.
Le crédit impôt recherche, c'est quelque chose qui bénéficie, qui a des effets dans les petites entreprises, mais qui a très peu d'effets dans les grandes entreprises. Là, il y a un rapport d'évaluation dans les services du Premier ministre qui l'atteste, qui l'a prouvé.
L'économiste Nicolas Da Silva.
Ben, ce qu'ils vont essayer de faire, les ouvriers dans les caisses de sécurité sociale, c'est que, je dis les ouvriers parce que c'est majoritairement ceux qu'ils sont, ils vont essayer de, orienter la production. C'est-à-dire qu'on maîtrise les caisses, on a les financements, et ben on va essayer de donner les financements dans les modes de production qu'on trouve plus vertueux.
Et enfin, le journaliste et écrivain Michael Correa.
Dans une grande métropole comme Paris, il y a un réseau de transport public assez performant, est-ce que c'est pas une mission de luxe de prendre son 4x4 ?
Avant de reprendre le train, j'ai pu assister à l'une des fameuses assemblées du vivant, autour du thème ce jour, prendre soin de notre parole commune. La foule était présente face à Marina Garcés, philosophe.
Pour se rencontrer, il faut être transformé, apprendre, recevoir. Et l'écoute, c'est ça. On a pensé, on parlait avant sur l'écoute. Écouter, c'est pas être poli et se taire d'une façon seulement formelle.
Maxime Olivier, activiste pour la justice sociale et climatique.
Aussi optimiste que je puisse être sur la nature humaine, aujourd'hui, je ne crois plus vraiment qu'il est possible de se passer d'un médiateur, d'une médiatrice, d'un animateur, une animatrice.
Et enfin, Gérald Garuti, fondateur et directeur du Centre des Arts de la Parole.
Est-ce qu'il faut changer l'homme, l'être humain, pour changer le monde, ou est-ce qu'il faut changer le monde pour changer l'être humain ? Par quoi on commence ? Est-ce que pour avoir un monde nouveau, il faut des êtres qui aient déjà changé ? Ou est-ce qu'il faut d'abord changer la société pour nous-mêmes nous transformer ?
Et puis, dans la continuité de cette journée, ce sont finalement les récits de celles et ceux qui ont osé prendre la parole, participer à l'Assemblée en racontant ce qu'elles et ils étaient qui ont résonné le plus fort.
C'est une question que je me pose tout le temps. Je parle pas, j'ai des trucs à dire, il y en a plein, j'en suis sûre, ils ont plein de trucs à dire, mais ils les disent pas aujourd'hui, on est trop, c'est pas le contexte, il y a des sachants, il y a tout ça. J'en avais parlé un peu l'année dernière parce que ça fait 4 ans que je viens ici. Donc j'aime bien parce que je sens qu'à chaque fois, il y a des formes de rencontres qui évoluent. Notamment, j'ai travaillé dans un pays, le Liban, pays en guerre qui a vécu la guerre. Et c'est la question de quand on est dans la rencontre, on se parle à quel endroit de nos vécus. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un état de vie ou de survie ? et on ne va pas nécessairement se dire les mêmes choses. Et tant que, en fait, ce côté sécurité, confiance n'est pas là, ou pas écouté, en fait, on va être sur des choses qui vont être plus faciles peut-être à dialoguer.
L'année prochaine, si vous le pouvez, courez découvrir Agir pour le vivant, pour réfléchir, pour apprendre et surtout pour réaliser que le collectif et les individualités n'ont de cesse de se bouleverser.